Il y a un apologète, hein, vraiment, je crois que c'est un peu le plus grand, il s'appelle Zacharias. Donc un apologète, c'est vraiment quelqu'un qui défend la foi chrétienne. Hein, l'apologétique, c'est ça. C'est quand tu dis, oui, mais enfin, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Tac, 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 tac. Il t'envoie 20 réponses. Alors en général, tu bouges tes oreilles et t'écoutes pas ces réponses-là. Enfin non, j'ai pas répondu ça, excusez-moi. Mais un apologète, c'est ça, c'est quelqu'un qui donne les réponses pour la foi chrétienne. Eh bien, ce grand apologète, il dit, la réponse que j'ai la plus difficile à formuler, c'est la réponse à cette interpellation. Tu me parles d'un Dieu d'amour qui transforme les vies. Eh bien, montre-moi, dans la vie des chrétiens que je connais, montre-moi son œuvre, parce que je ne la vois pas. Il dit ça, quand on me donne ça comme argument, qu'on me dit, si Dieu existe, je dois le voir dans la transformation des vies de ceux qui se disent chrétiens, c'est l'élément auquel j'ai le moins de choses à dire. Alors bon, il ne faudrait pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, il faudrait quand même se rappeler que même si on dit que ce n'est pas vrai dans notre époque aujourd'hui, parce qu'on a bien évolué, n'est-ce pas? Donc, même si dans notre époque on dit que ce n'est pas vrai, il ne faudrait quand même pas oublier que la plupart des grands mouvements qui sont faits, que ce soit les mouvements sanitaires, que ce soit les mouvements qui se sont occupés des SDF, que ce soit les mouvements qui se sont occupés des gens malades, que ce soit les mouvements qui se sont occupés du tiers-monde, du quart-monde et de tout ce que vous voulez, c'était quand même presque toujours des mouvements chrétiens. C'était quand même presque toujours des gens qui ont dit « Nos mains sont les mains du Christ sur la terre et nous faisons quelque chose. » Évidemment, maintenant, tout ça on jette à la poubelle, mais ok, passons, ça va. Mais on parle ici de la transformation des gens dans leur vie personnelle. Et vous savez comme moi qu'il y a des gens qu'on se dit sur leur lieu de travail « Ça, c'est un chrétien, un manipulateur, un maniganceur. » Un enquiquinant, un perturbateur comme celui-là, c'est un chrétien. Vous savez comme moi qu'il y a des milieux chrétiens où il y a des procès retentissants de pédophilie, d'abus sexuels. Ça, c'est un chrétien. Vous savez comme moi qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui s'engueulent entre mari et femme, qui se disent chrétiens, mais qui sont adultères. Ça, c'est un chrétien. Et on comprend alors ainsi donc, comment se fait-il que la Bible parle d'un Dieu d'amour qui transforme les vies dans sa toute-puissance? Mais c'est pas tous les jours ce qu'on voit. Mais la Bible nous éclaire aussi sur le sujet. Elle nous montre qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens parce qu'elle nous parle dans beaucoup de passages qu'il y a beaucoup de faux chrétiens. Primant. Et deuxièmement, la Bible nous parle aussi dans beaucoup de passages qu'il y a des gens qui sont des croyants, mais qui passent des moments par lesquels ils tombent. Et heureusement, nous avons ces témoignages. Nous savons que même les pères des croyants, celui qui est appelé le père de tous les croyants, il a dit, « Ma femme, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. » Il mentait publiquement. Nous savons que Jacob a trahi son père en se faisant passer pour son frère. Il a volé le droit d'aînesse de son frère. Nous savons ça. Nous savons que David, il a pris la femme d'un autre homme en faisant tuer cet homme. Nous savons que dans les actes des apôtres et dans le Nouveau Testament, nous savons que les disciples qui étaient avec le Seigneur le jour où le Seigneur a été embarqué au Sanhédrin, ils ont tous pris la poudre d'escampette. Nous savons que Pierre, qui avait été prévenu, a trahi 3 fois Jésus-Christ en disant « Je connais pas ». Cet homme-là, nous savons que Marc, qui faisait des efforts d'évangélisation avec l'apôtre Paul, a dit « Moi maintenant, je me taille, j'en ai marre ». Nous savons que Démas, qui était appelé à être un apôtre, il est parti, il a quitté. Nous savons tout ça. Et heureusement que nous le savons. Heureusement que la parole nous enseigne que le sacrifice de Christ sert à quelque chose. Que c'est à cause de cela que le sacrifice de Christ a sa réalité. Heureusement que moi je sais en tant que chrétien que les autres sont tombés. Mais heureusement que je sais aussi que par la grâce de Christ, je peux me relever. Je voudrais que on lise une histoire que, bon, moi ouais, c'est vrai, beaucoup sans doute ici la connaissent sans doute par cœur. Il y en a d'autres qui la connaissent peut-être moins, il y en a peut-être qui la connaissent pas, donc on va quand même la lire. Moi j'ai un titre dans cette histoire dans ma Bible, elle s'appelle « L'histoire du fils prodigue ». Elle se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Et On la lit à partir du verset 11. Voilà une histoire qu'on connaît bien. Dans ma Bible, ici on n'a pas le titre puisqu'on n'a pas le fractionnement du texte. Dans ma Bible, j'ai un titre qui s'appelle « Le fils prodigue ». Et c'est vrai que quand on lit cette histoire, nous, on la focalise sur l'histoire du fils prodigue. Et c'est un peu logique parce qu'elle prend quand même une part importante de l'histoire. Ainsi, c'est vrai qu'on est là dans une situation où on ne sait pas trop comment ça se passe dans cette famille. On ne sait pas trop s'il y a des contentieux, des litiges, des disputes ou quoi que ce soit. Mais on découvre qu'il y a le petit-fils, enfin le fils, le petit cadet, qui vient chez son père et qui dit « Moi, je veux la part de l'héritage qui m'est dû. » Alors, c'est intéressant de voir que tout ça, ça se passe assez bien dans la douceur. Hein, je veux dire par là que c'est pas vraiment un fils rebelle. Hein, c'est pas un sale type. C'est pas un sale mec qui vient trouver son père, qui a des engueulades, des conflits, des bagarres. Non, non, non. On n'entend rien de tout ça. Gentiment, il vient trouver son père, il lui dit, ah, moi, il faut ma part. Oh, en parenthèse, quand même, derrière cette gentille intervention, il y a quand même, moi j'en ai marre de rester ici. Je veux foutre le camp. Moi, je veux aller vivre ma vie ailleurs. Moi, j'en ai marre d'être sous ton autorité. Moi, j'en ai marre de faire ici au quotidien ce que toi tu dis qu'il faut faire pour la vie de la famille, pour les troupeaux, pour ceci. Moi, j'ai envie de vivre libre. Moi, quelque part, j'en ai marre que tu vives encore, hein, parce que j'aimerais bien avoir l'argent qui m'est dû. Alors, si c'était possible, t'es pas mort, ok, on va pas t'assassiner, mais enfin, si tu pouvais me donner quand même ce qui m'est dû. Donc, c'est quand même un peu clash, hein, c'est quand même un peu fort. Et on ne dit rien non plus dans cette histoire de l'impact de cette situation sur le papa. On ne dit pas, le papa a commencé à essayer de le raisonner, le papa a commencé à discuter avec lui, le papa a essayé de lui dire, mais ça se fait pas, et tu fais pas un bon choix, tu choisis mal, et on ne dit pas non plus que le papa s'est fâché, que le papa a empoigné le fils en disant, tant que j'y vivrai, tu n'auras jamais rien de ce qui m'appartient, jamais je te le dis, et même après, je ne m'arrangerai pour que tu aies rien non plus. Non, on ne dit rien de tout ça. Tout va bien. On parlait tout à l'heure de Jean-Paul Sartre des silences de Dieu. Dieu n'existe pas parce qu'il ne parle pas. Je pense qu'on ne nous dit rien, mais qu'on peut imaginer la douleur dans le cœur de ce père. D'ailleurs, la suite de l'histoire qui nous dit qu'il a passé son temps à attendre ce fils, qu'il allait voir sur la colline s'il revenait. Tous les jours de sa vie, il a pensé à lui. C'est gros. Il y a eu beaucoup de souffrance. On ne nous en parle pas. On dit que l'affaire est très vite réglée, que les biens sont partagés et que le fils, quelques jours après, il s'en va. On ne nous dit rien non plus du départ. On ne nous dit pas, mais comment ça s'est passé? Ils ont pleuré dans les bras l'un de l'autre. Est-ce que le père a donné des dernières consignes en disant, sois quand même prudent? Est-ce que le père a utilisé des petites formules en disant, tu sais, la porte est toujours ouverte, tu reviens quand tu veux, je t'attendrai toujours avec amour? Non, rien. Silence du père. Douleur du père. Tristesse du père. Il y a un verset, il n'y a pas longtemps, qui m'a frappé. C'est dans le prophète Jérémie. C'est le moment où la dernière tribu, la tribu de Judas, n'a pas écouté toutes les prophéties qu'on avait encore faites, que le prophète Jérémie avait fait. Et voilà, arrive ce qui doit arriver, puisque personne n'a rien écouté, encore une fois. Paf ! La dernière tribu, la tribu de Judas, dernière tribu d'Israël, elle est déportée aussi. On vient tout piller, tout casser, tout anéantir, et ils sont embarqués, puisque... Ils n'ont rien entendu, rien voulu entendre, rien voulu comprendre, hein, puisque nous n'avons rien entendu, rien voulu entendre, rien voulu comprendre. Et à ce moment-là, dans la bouche du prophète Jérémie, il est dit de la part de Dieu, « Je pleurerai dans le secret. » Il y a des moments où le Père ne dit rien parce qu'il pleure. « Je pleurerai dans le secret. » Vous avez connu ça, hein, si vous êtes papa, que vous avez ce privilège d'avoir eu des enfants, si vous êtes maman, que vous avez eu ce privilège d'avoir des enfants, vous avez connu ça, hein, vous avez rien dit, vous avez rien fait, mais vous avez pleuré dans le secret de votre cœur, à cause d'un choix, de votre fille, de votre fils, vous avez connu ça. Ben, ici, on dit rien de ce père, mais on voit dans la suite de l'histoire qu'il en a eu gros pendant longtemps. Alors voilà, cette histoire généralement se focalise sur cet aspect-là et on l'appelle l'histoire du fils prodigue. J'aimerais peut-être ce matin, même si Ça, c'est en principe notre point de départ à tous. Tous ici, nous nous sommes retrouvés un jour comme ce fils cadet. Si ça a été le point de départ de notre histoire, j'aimerais me focaliser ce matin sur la deuxième partie de l'histoire. Et peut-être, comme le propose quelqu'un, donner un autre titre à cette parabole, non pas l'appeler la parabole du fils prodigue, mais l'appeler la parabole des deux fils perdus. Ils sont deux à être perdus. On va voir pourquoi, si vous voulez bien. D'abord, parce que, comme nous l'avons lu, Jésus, bien sûr, il n'a pas dit « Je vais vous raconter la parabole du fils prodigue ». Il a commencé une histoire en disant « Un homme, un père, avait deux fils ». C'est tout. La base est posée. Il y a trois personnages, un père et deux fils. Et Jésus va parler du premier fils et va parler du deuxième fils. Ça me paraît d'autant plus intéressant que on n'a pas lu ça, mais au début de ce chapitre-là, je vous lis vite, le chapitre 15, il commence en disant « Tous les péagers, les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Verset 2, « Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille les pêcheurs et il mange avec eux. » Ça, c'est le point de départ. C'est à la suite de cette situation-là que Jésus raconte quelques paraboles, dont la parabole que nous appelons la parabole du fils prodigue et qu'on va appeler la parabole des deux fils perdus. Dans ces gens qui écoutent, il y a donc deux types d'auditeurs. Il y a les publicains, c'est un public auquel Jésus parle. Les publicains, c'est les gens de mauvaise vie. Si on devait transposer dans notre époque, vous savez, les publicains, c'est ce qu'on appelle, souvent dans les églises on entend ça, les gens du monde, ceux du dehors, ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu, qui n'écoutent pas les commandements de Dieu, qui vivent n'importe comment, qui vivent dans la débauche, qui n'ont pas de moralité, qui sont des arnaqueurs, ils n'ont pas de règles morales et ils ont encore moins de règles religieuses. C'est vrai que tout ce qui est religieux, ils s'en foutent complètement. Ça, c'est le premier groupe auquel parle Jésus. Et puis il y a l'autre groupe. Ce sont les scribes et les pharisiens. Ça, c'est tout différent. Les pharisiens aussi, on les connaît. Dans la parole de Dieu, on parle souvent des pharisiens. Et en général, il faut bien avouer que c'est vrai, le Seigneur va fustiger beaucoup d'attitudes des pharisiens. Il va souvent leur reprocher d'être des hypocrites. Des hypocrites dans la manière dont ils prient, la manière dont ils parlent, la manière dont ils jeûnent, la manière dont ils donnent leur dîme. Il dit d'eux, dans certaines circonstances, « Vous êtes des sépulcres blanchis. » Tout beau et blanc dehors et pourri dedans. C'est vrai que le Seigneur fustige régulièrement l'attitude de certains pharisiens. Parce qu'il ne faudrait quand même pas, encore une fois aussi, jeter le bébé et l'eau du bain. Il ne faudrait quand même pas oublier que les pharisiens, c'est une classe religieuse de l'époque, mais ce sont quand même les gens qui connaissent tout ce qui est ici, en tout cas dans la première partie, comme nous essayons de le faire. Ce sont quand même des gens qui veulent écouter les commandements de Dieu, comme nous voudrions aussi essayer de le faire. Ce sont quand même des gens qui veulent vivre en proximité avec Dieu, comme on veut essayer de le faire. Ce sont des gens qui enseignent à leurs enfants les principes et les lois que Dieu a donnés, parce qu'ils savent que leur bonheur en dépend, comme nous voulons essayer de le faire. Quelque part, si on devait transposer dans notre société, je crois quand même qu'on a plus de chances de trouver parmi les pharisiens des gens qui se lèvent et qui vont dans les rues pour se battre, par exemple, comme en France, contre le mariage pour tous, ou des gens qui vont se lever en disant « je ne suis pas d'accord avec la dernière théorie du genre », on trouvera plus facilement ça parmi les pharisiens de l'époque que parmi les publicains de l'époque. Jésus s'adresse à ces deux publics, et je ne suis pas sûr que l'histoire la plus importante en ce qui nous concerne, nous, croyants, qui sommes revenus à la maison du Père par la grâce du Christ, soyons vraiment concernés par la première partie. Par contre, Je ne suis pas sûr non plus que l'impact le plus important qu'il veut donner à cette parabole ne concerne pas justement les gens comme nous, comme les religieux de l'époque, comme les pharisiens de l'époque. D'ailleurs, c'est suite à ce murmure des pharisiens qu'il dit ces paraboles. C'est parce que les pharisiens ont dit « Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là ? Si ces gens de mauvaise vie, ils mangent avec eux, interdits par la loi. Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là ? » C'est suite à ce murmure-là qu'il récite les paraboles. Donc, il attire l'attention sur une réponse qu'il a donnée à ces gens-là aussi. Et d'ailleurs, la parabole se termine dans les derniers versets. C'est vrai, c'est moins long, c'est plus court, mais elle se termine par référence à ce qui concerne le fils aîné, le fils qui est resté. On va voir, en avançant dans la parabole, que finalement, le fils qui est resté, il n'est pas si bien que ça. Et c'est intéressant pour nous de nous dire qu'il y a des gens qui restent près du Seigneur, qui sont attentifs aux commandements du Seigneur, qui sont désireux de vouloir servir le Seigneur, mais qui ne sont pas tellement meilleurs que le fils qui est parti. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec le fils aîné, finalement ? La première chose qui est interpellante, je trouve, c'est que, vous avez remarqué, il ne s'est jamais manifesté non plus. Quand son petit frère s'en va, il n'a pas été trouver son père. On ne nous dit pas, en tout cas, qu'il a essayé de consoler son père, qu'il a essayé d'encourager son père, qu'il a essayé de motiver son père à faire quelque chose, à avoir une attitude. Non, il a bien gardé les distances. En plus, quand on voit son attitude par rapport à son frère, on se rend compte aussi qu'il n'a pas essayé d'aller rencontrer ce frère, d'essayer de lui parler, d'essayer de le faire changer d'avis. Il aurait peut-être probablement pas pu le faire, mais quand même lui dire « Est-ce que tu te rends compte ce que tu vas faire à notre père ? Il va être triste comme tout. Tu te rends compte quelle vie il va avoir maintenant ? Tu te rends compte comment tu vas chambouler ici, la cellule familiale, avec ton comportement ? Est-ce que tu te rends compte qu'en faisant ça, c'est comme si tu le condamnais déjà à mort ? C'est comme si tu l'enterrais, si tu le jetais comme une vieille chaussette ? Non, on n'entend rien de tout ça. » Garde les distances. Et en réalité, ce qui est très interpellant, c'est que non seulement il garde les distances, mais lui, sans y toucher, sans avoir l'air de ne rien faire, il prend sa part d'héritage et il la met dans sa poche. Parce qu'en parenthèse, je ne sais pas si vous avez été attentif, mais dans le verset 12, c'est ce qu'il est dit. Le père partagea l'héritage et leur donna. Les deux ont reçu leur part. Alors en fait, quand on y réfléchit bien, ce qui différencie le fils qui est resté de celui qui est parti, excusez-moi, c'est peut-être un peu fort, mais c'est presque qu'il n'a simplement pas eu l'audace, lui, de réclamer son héritage et de claquer la porte. Il est resté là près du père, mais en réalité, l'héritage, il l'a mis dans sa poche, il est bien content comme ça, et il est en apparence magnifique et merveilleux. Lui, il est celui qui est irréprochable. Il est toujours auprès du père, il est toujours en train d'écouter le père, il est toujours en train d'essayer de faire ce que le père a demandé de faire. Magnifique, bingo, il gagne sur tous les tableaux, lui. Quel est son problème ? Quel est son problème, en fait ? Quand on a lu l'histoire à partir du verset 25 jusqu'au verset 31, on va voir trois points. Le premier, c'est que le fils qui est resté, ne comprend pas que le Père fasse grâce, bénisse, accueille avec amour le retour de son fils. Il ne comprend pas ça. On l'a vu, mais enfin, c'est pas croyable. Lui, il a tout dilapidé, il revient, tu l'accueilles, tu fais le beau gras. Il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas. C'est quelque chose qui dépasse son entendement. Or, mes amis, tous les fois où nous sommes là, nous disons la même chose. La grâce est gratuite. La grâce est imméritée. Je l'ai entendu trois fois ce matin. Dans l'un qui a prié, dans l'autre qui a dit quelque chose. La grâce est gratuite et imméritée. Mais lui ne comprend pas que son père fasse grâce à son frère. Mais vous savez, c'est là que j'attire notre attention à nous. Si lui ne comprend pas que la grâce est gratuite pour son frère, je crois qu'il n'a jamais véritablement compris pour lui-même ce qu'est la grâce. Je crois qu'il a une mauvaise interprétation personnelle de la grâce. Je crois qu'il est très fier d'être resté tout près de son papa, au service de son papa, comme quelqu'un de bien et de fidèle. En fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder des frères et sœurs en Christ et de vous dire, je suis là, ça va comme ça. Mais t'as vu comment ils se comportent? S'ils vivaient un petit peu plus proche du Seigneur, hein? S'ils vivaient un peu plus selon les commandements de Dieu, s'ils vivaient un petit peu plus comme il faut pour Dieu, est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder les autres en vous disant, s'ils vivaient un petit peu plus comme si, ça irait mieux dans sa vie aussi. Sous-entendu, s'il participait lui-même à son mérite, il aurait droit à une bénédiction de Dieu. Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire que la bénédiction que Dieu donne, et surtout aux autres, est interdépendante avec leur éloignement de Dieu? C'est facile ça, on a vite fait ça. Hein? Moi ça m'arrive, ça m'arrive. Ça m'arrive sans aucun problème de regarder les autres et de dire, ça, si tu vis comme ça mon vieux, c'est pour ta pomme, faut pas t'étonner, faut pas t'attendre. Ah, maintenant tu voudrais que Dieu bénisse ça. Ah, ben oui. Vous savez que chaque fois que je fais ça ou chaque fois que vous faites ça, je suis exactement comme le fils aîné. J'ai rien compris à la grâce, rien du tout. Je crois que parce que moi je suis quelqu'un de bien devant le Seigneur, qui écoute bien ce que Dieu dit, qui fait bien ce que Dieu demande, c'est à cause de ça et uniquement à cause de ça que le Seigneur bénit. Non. On a dit que notre année ici, on avait comme désir de vouloir nous faire toujours plus comprendre l'amour de Dieu pour que nous ayons l'amour de Dieu et la passion de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais pour le Seigneur, ça. C'est mon amour pour Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure avec ces gens de porte ouverte qui disent « Mais comment veux-tu ? J'ai reçu une tellement grâce du Seigneur, mais moi je me dois de prier pour ceux qui persécutent ma famille. » Waouh ! Ces gens-là, ils ont compris la grâce de Dieu. Je fais les choses pour Dieu par amour. Ça coule de source en retour de la grâce que j'ai reçue. Mais je ne fais rien parce que je suis mieux ou plus proche de Dieu que quelqu'un d'autre. Ce fils-là, il est tout près de son père. Mais ce fils-là, il ne connaît pas son père. En fait, je disais les deux fils perdus, parce que l'un, il est éloigné parce qu'il a claqué la porte et qu'il est parti. Et l'autre, il est éloigné parce qu'il est là, mais son cœur n'est pas avec son père. Son cœur ne connaît pas son père. Deuxième élément dans cette histoire. Non seulement ce fils-là qui est resté, c'est un fils qui n'a rien compris à la grâce de Dieu, mais en plus, il la trouve injuste, cette grâce. Il trouve la grâce de Dieu injuste. Et c'est ce qu'il fait, hein. Mais non d'une pipe, quoi. Moi, je suis là à côté de toi depuis tout le temps. Je suis là depuis toujours. L'autre, il revient, tu tues le veau gras, tu fais une grande fête. Et moi, quand est-ce que tu as fait une fête avec un agneau pour moi? T'as jamais rien fait pour moi. Il trouve que c'est injuste. La grâce de Dieu est injuste. Eh bien, il a parfaitement raison. La grâce de Dieu est tout à fait injuste. Non, elle est juste en Jésus-Christ. La justice de Dieu se manifeste dans le sacrifice de Jésus-Christ qui prend ma faute à moi. La justice de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est juste en Jésus-Christ. Mais pour moi, elle est tout à fait injuste. Vous voulez bien m'expliquer comment est-ce que parce que je mets ma confiance en Jésus-Christ, moi, tous mes péchés passés, mes péchés d'aujourd'hui et mes péchés à venir sont effacés? C'est pas injuste, ça, par rapport à quelqu'un d'autre qui met pas sa confiance en Jésus-Christ. Vous voulez bien m'expliquer qu'en plus, c'est même pas moi qui me suis convaincu moi-même de pécheur. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu que j'étais pécheur. C'est pas injuste, ça. C'est même pas moi qui l'ai fait moi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu. Mes amis, dans la parabole des ouvriers, c'est pas injuste, ça, que celui qui arrive là, qui vient juste travailler 5 minutes avec le Père, celui-là, il reçoit le même traitement que celui qui a travaillé toute la journée. D'ailleurs, ils le disent. Eh, t'es un maître injuste, hein. Nous, on est là depuis 6 heures du matin, on a travaillé comme des bêtes. Et l'autre, il arrive depuis 5 minutes, et tu nous donnes le même traitement. C'est pas injuste, ça. C'est pas injuste avec celui qui est sur la croix avec Jésus, et qui dit seulement, qui fait une confession de foi, de 3 mots, et que Jésus lui dit, toi, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas injuste, ça. Vous avez des gens qui ont souffert dans leur foi, dans leur marche avec le Seigneur, peut-être 60 ans, 70 années de vie, j'en sais rien moi. C'est pas injuste ça, d'avoir la vie éternelle en trois mots sur la croix, par rapport à quelqu'un qui s'est battu dans la vie chrétienne peut-être pendant 70 ans. Ah oui, là, le Fils, il a compris quelque chose. Et mes amis, je voudrais vous dire que, est-ce que ça vous arrive pas, vous aussi, de trouver que c'est injuste, la bénédiction qui est ailleurs? Ah, peut-être vous pas. Moi, je peux vous dire aussi que, moi, ça m'arrive de trouver que la bénédiction, elle est injuste ailleurs. Moi, ça m'arrive. Hein? Moi, quand je vois dans des familles les enfants et tout qui se convertissent, et que chez moi, j'ai pas d'enfants convertis, je me dis, c'est injuste, ça. Hein, jusqu'au jour où un ami me dit, tu sais, calme-toi, hein, parce que moi, je connais un pasteur, son premier fils, il est homosexuel, son deuxième fils, il est homosexuel, et il a arrêté la suite. Mais, c'est facile, ça. Chaque fois que je regarde la bénédiction chez les autres, en disant, moi, j'ai pas eu cette bénédiction-là. Chaque fois que je fais ça, je fais comme le Fils aîné. Je comprends rien à la grâce de Dieu. Le Fils aîné, il n'a rien compris à la grâce de Dieu. La preuve, c'est qu'un petit peu plus tard, on lui a dit, mais tout ce qui était là t'appartenait. Il n'a pas compris que dans sa grâce, il avait du Père tout ce qui appartenait au Père. Il a continué de croire que moi j'ai parce que je fais. Moi j'ai parce que je suis mieux. Moi je parce que je suis un bon pharisien. Troisième et dernier élément peut-être dans cette histoire. Et c'est peut-être l'élément révélateur pour savoir où nous en sommes, nous les uns les autres, par rapport à la grâce de Dieu. En fait, quand moi je lis cette histoire, je me dis, c'est bien ça, hein, c'est un bon fils. Il est bien resté près de son père, il est bien resté fidèle, il a bien servi, c'est bien. Et en fait, je me dis, c'est un sale type. C'est un sale type. Vous avez vu qu'il n'y a pas une once d'amour chez cet homme. Mais il est brave, hein, il est près du père, il est resté fidèle. Hein. Il n'y a pas un gramme d'amour. Quand est-ce qu'il s'est approché de son père pour essayer de consoler son père? Quand est-ce qu'il s'est approché de son père pour essayer de dire « Papa, je vais te consoler dans l'épreuve que tu traverses. » Et pour son frère, on l'a dit là tantôt, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Quand est-ce qu'il a essayé d'aller convaincre son frère de ne pas faire ça? Et au contraire, quand son frère est revenu, vous avez vu quelle attitude? Il aurait dû se réjouir avec les autres. Le père a fait un grand repas, il aurait dû venir, il aurait dû faire la fête avec. Il aurait dû dire, papa, maintenant, toi qui étais si triste depuis si longtemps, c'est chouette, on va te revoir heureux. Papa, le fils est revenu, le fils que tu avais perdu est revenu. Et il aurait dû dire à son frère, je suis content que t'es là, je suis tellement content que t'es là. Et tu sais, tu viens, t'as eu un parcours, t'as traîné dans la boue, mais si tu veux qu'on en parle, on en parle. Si tu veux que je t'aide, je t'aide. Si t'as besoin de moi, je suis là. Qu'est-ce que vous avez entendu de ça? Le père ne devait pas faire cette fête-là. Le père devait rester dans sa tristesse pour toujours. Finalement, le fils aîné, il n'y a qu'une chose qui lui a fait plaisir. C'est que le départ de son frère, ça l'a mis en valeur, lui. Parce que lui, il était fidèle, lui. Mais l'amour, rien. Rien comme amour. C'est là que je voulais en venir ce matin. Dieu avec nous. Regardez l'Irak et regardez-nous. Que faisons-nous? Qui sommes-nous? Comment vivons-nous la grâce de Dieu, nous? Nous nous battons pour une bêtise. Nous ne sommes pas d'accord avec une idée. C'est mon projet qui est le bon, c'est mon idée qui est la bonne. C'est mon initiative qui est bien. Quand un autre pharisien avait invité Jésus chez lui, il s'appelait Simon, il avait invité Jésus chez lui, et là il se passe quelque chose, il y a une femme de mauvaise vie qui vient, elle rentre, Elle pleure sur le Christ. Elle lui lave les pieds avec ses pleurs et elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. Et Simon est profondément choqué de ce qu'il vient se voir. Que cette femme-là, qu'il connaît, touche Jésus-Christ et qui se laisse toucher. Abomination. Et Jésus va lui donner une réponse. Celui à qui on pardonne peu a peu d'amour. D'où viens-tu? D'où est-ce que je viens? Tu sais ce qu'on t'a pardonné? Tu sais ce que tu as vécu? Tu sais ce que tu as fait? Tu sais ce que tu as fait? Tu sais c'est quoi la grâce de Dieu pour toi? Tu sais, tu connais, tu réfléchis, tu te rappelles? Moi, je peux vous dire que je me rappelle de ce que j'ai fait, hein. Je peux vous dire que j'ai très dur à oser poser un jugement sur quelque chose, hein. Franchement. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Comment aimes-tu tes frères? Comment aimes-tu tes sœurs? Comment acceptes-tu la bénédiction chez les autres ou pas la bénédiction sur les autres? Comment regardes-tu le service de ton frère et de sa sœur? Comment regardes-tu la vie de ton frère et de ta sœur? Ah, si tu es quelqu'un de parfait, alors on comprend. Tu es tellement parfait qu'il n'a jamais rien fallu te pardonner. Donc, comme dit Jésus, tu sais, toi tu es tellement parfait, Simon, qu'il n'y a rien à te pardonner. Alors, comme il n'y a rien à te pardonner, tu n'as aucun amour à donner. Mes amis, Dieu avec nous. Nous ne vivons pas en Irak, mais si nous pouvions ensemble reprendre la juste dimension de la grâce qui nous a été faite pour savoir, dans notre manière de regarder les autres, savoir ce que ça veut dire aimer l'autre. On t'a pardonné beaucoup dans ta vie? Tu te souviens d'où tu viens? Tu te souviens ce qu'on a pardonné dans ta vie? Alors, mais quelle chiclette, quel détail que tu pardonnes un comportement comme ça, ou une parole comme ça, ou une attitude comme ça. Combien c'est négligeable. On t'a pardonné beaucoup. Alors ça se voit, parce que tu aimes beaucoup. Tu n'aimes pas beaucoup. Tu ne sais pas aimer l'autre. Ce matin, j'écoutais la radio, et le type avait à peine dit trois phrases, et je dis blablabla. J'aime pas ce type quand il parle. Alors mon épouse, elle me dit, mais toi, tu n'aimes personne. Toi, t'aimes personne, toi. Comment tu te comportes? Comment on voit comment tu aimes? Je suis tellement bien, moi. Pas besoin, n'est-ce pas? Pas besoin du grand pardon de Dieu. Alors, comment je peux aimer les autres? Je vous invite vraiment, ce matin, à reconsidérer le privilège immense que nous avons d'avoir été gracié par Dieu. Je trouve tellement dommage que ce fils est resté vivre tout près du Père et qu'en fait, dans son cœur, il ne connaissait pas du tout son Père. Et que son Père a dû lui dire, mais je ne comprends pas quoi. Tout était accordé. Par la grâce, tout était accordé. Et tu me réclames un chevreau. Il était tout près du Père, mais il a vécu avec son cœur loin du Père tout le temps. Nous allons prier, si vous le voulez bien. Seigneur mon Dieu, c'est vrai que ce matin, se pose cette question. Quel type de frère, quel type de sœur aîné je suis vraiment dans cette communauté, dans cette église? C'est vrai, Seigneur, que nous avons tous commencé le chemin par ce qui est arrivé au fils prodigue. Nous sommes revenus à la maison du Père. Nous avons entendu que tu frappais. Nous avons ouvert la porte. Mais Seigneur, combien de fois, après avoir connu ta grâce, nous empruntons vite le chemin du mérite. Le chemin du mérite. Seigneur, combien de fois nous sommes comme ce publicain qui disait « Oui, moi, je te loue, ô Dieu, que je ne suis pas comme les autres, que je ne suis pas menteur, adultère, voleur, que je prie, que je jeûne deux fois par jour. Je te loue que je ne suis pas comme ce publicain qui est à côté de moi. » Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons te demander ton aide pour que tu nous éclaires sur quel type de fils aîné nous sommes maintenant que nous sommes dans ta maison, que nous disons t'appartenir, maintenant que nous voulons écouter ce que tu nous enseignes, ce que tu nous dis, que nous voulons vivre selon tes principes. Oh Seigneur notre Dieu, est-ce que ta grâce, Seigneur, est mon pain quotidien? Ou bien au contraire, Seigneur, est-ce que j'ai oublié ta grâce, perdu de vue ta grâce, et que je suis devenu si amer envers toi et envers mes frères, Seigneur? Aujourd'hui, toi qui t'appelles Emmanuel, renouvelle notre désir d'être des gens qui comprenons que nous avons été pardonnés de beaucoup de choses et que nous avons beaucoup d'amour à donner en retour. Visite-nous, Seigneur, sur cette voie. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen.